Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endo-girl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Lab AMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endo-girl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialiste du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Thibaut Chevalier. Psychologue et hypnothérapeute, il a accepté de nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Merci Thibaut.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors, pour commencer, en quoi consiste votre métier et quel est son lien avec l'endométriose ?
Ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente. Comment consiste mon métier ? Je dirais que mon métier consiste à accompagner les patients à traverser certaines périodes de leur vie dans lesquelles ils peuvent rencontrer des difficultés ou des questionnements. Mon métier, ça va être de permettre aux patients d'évoquer certaines choses, travailler sur l'analyse de comportement, de schéma, travailler sur la construction psychique des patients. Ça passe par des temps d'échange, ça passe par éventuellement des outils parfois, la mise en place d'outils afin de leur donner des clés pour être autonome dans la gestion de la situation. L'idée, c'est vraiment d'amener le patient à réfléchir, à parfois voir la situation différemment pour sortir des difficultés qu'il peut rencontrer. On ne va pas donner de solution directement, mais on va permettre au patient, par ces temps d'échange, de mieux comprendre les situations.
Et alors, quelle va être justement votre approche ? Vous avez commencé à l'évoquer, mais quelle va être votre approche pendant les séances ?
Alors, par rapport à l'endométriose, disons qu'il y a une prise en charge qui est plutôt globale dans l'accompagnement. C'est rarement centré uniquement sur la pathologie. L'idée, c'est de voir un petit peu comment la pathologie, elle peut entrer en lien avec certaines situations. Dans cette prise en charge, ça va surtout passer par, dans un premier temps, déjà que la patiente définisse la maladie par elle-même. C'est important de voir quels sont les mots utilisés. Ça va donner des indices sur la manière dont est vécue la pathologie, si le sujet est abordé librement ou non, s'il y a une gêne ou non à aborder le sujet. Ça va être déjà une première étape importante, je pense, dans l'accompagnement. Ensuite, on va être sur l'analyse de la manière dont le diagnostic a été posé. Je pense que ça, c'est une étape qui est importante, savoir quand est-ce que le diagnostic a été posé, si c'est quelque chose de récent ou non, quelles ont été les différentes étapes qui ont amené aussi au diagnostic, comment le lien s'est passé aussi avec les professionnels, parce que ça a son importance aussi. Tout ça, en fait, on va être dans ce qu'on appelle... Exactement. Tout ça, en fait, on va être déjà dans une première partie anamnèse, en fait. L'anamnèse, en psychologie, c'est les premiers rendez-vous qu'on a, c'est comprendre un petit peu le parcours du patient, c'est-à-dire le parcours au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, et donc comment la pathologie, à un moment donné, elle a pu arriver aussi dans l'histoire, comprendre quels impacts ça a pu avoir aussi, ce diagnostic, les impacts au quotidien, sur le ressenti émotionnel, les symptômes qu'on va rencontrer aussi, parce que les symptômes sont... Alors il y a des symptômes qu'on retrouve quasi systématiquement, notamment la douleur, mais il y a des symptômes qui sont différents aussi en fonction des différents stades et en fonction des personnes. Tout ça, c'est ce qu'on va travailler dans un premier temps, et puis ensuite il y a des choses un petit peu autour, on va dire. Comment est-ce que les proches réagissent ? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé avec eux ou non ? Et comment est-ce que ça vient impacter les relations, que ce soit au niveau du travail, au niveau des proches, au niveau amoureux, au niveau familial. Tout ça, c'est, quand je vous parle de prise en charge globale, en fait, c'est de l'analyse globale et comment est-ce que la maladie peut intervenir là-dedans. Et puis ensuite, il y a un travail qui peut se faire sur les émotions vécues, sur le rapport à la douleur, la gestion des moments de crise. Tout ça, en fait, je pense que ça vient avec le lien avec son corps, le fait de réussir à maintenir un lien avec son corps. C'est un corps qui fait mal, c'est un corps contre qui, parfois, on a de la colère, qui peut générer de la tristesse. Mais en fait, comme souvent dans les diagnostics médicaux, en fait, une fois que la pathologie est évoquée, en fait, on doit apprendre à vivre avec. Et c'est parfois un peu compliqué quand on nous impose quelque chose soudainement et qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Alors nous, les humains, on aime bien avoir du contrôle sur toutes les situations. Et dans le cas des pathologies comme l'endométriose, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et c'est important de réussir à garder du lien avec son corps, pas être en guerre contre ce corps qui peut faire mal parfois. Ça, c'est quelque chose qui est souvent à prendre en compte dans la prise en charge. C'est vraiment apprendre à vivre avec la pathologie. Et en complément, on va aussi investiguer un petit peu les suivis qui sont mis en place. En tout cas, moi, dans ma manière d'accompagner les patientes qui sont atteintes d'endométriose, c'est aussi comprendre quels sont les suivis mis en place. Est-ce qu'il y a un suivi au niveau diététique, nutritionnel? Est-ce qu'il y a un suivi au niveau kiné? Est-ce qu'il y a un suivi gynéco? Parce que on en rediscutera peut-être un petit peu plus tard, mais parfois dans les situations où on n'a pas de contrôle ou quand les situations sont difficilement vécues, une des stratégies qu'on a, c'est de mettre en place de l'évitement. Et vous avez parfois des patientes qui vont aussi mettre en place de l'évitement par rapport au suivi, parce que sur l'instant T, ça va soulager de ne pas être confronté à la pathologie. Et malheureusement, ça a tendance à amener des complications sur moyen et long terme. Et c'est important aussi de voir du coup quels sont les suivis qui sont déjà mis en place et s'il y en a qui peuvent être complémentaires aussi derrière. Alors une prise en charge spécifique dessus, disons que pour le cas de l'endométriose, moi très clairement, j'ai jamais eu une patiente qui est venue spécifiquement pour l'endométriose. Elle est venue pour une problématique et en fait on s'est rendu compte que l'endométriose rentrait en compte dans cette problématique. Là où c'est important, je pense, d'avoir un accompagnement psychologique dans les pathologies chroniques comme celle-ci, c'est que cette pathologie, on l'a tout le temps. Et elle a un impact qui est très important sur tellement de domaines que c'est important de s'y confronter parfois, de s'y confronter dans un espace qui est dédié à ça, et pas de subir les moments où elle arrive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Souvent, on va attendre d'être confronté à un moment difficile pour aborder les choses. Alors ça, typiquement, dans l'accompagnement psychologique, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. On va attendre le dernier moment pour consulter ou le moment où on est au plus mal pour consulter. Dans le cadre des pathologies chroniques, c'est important d'avoir cet espace dédié où on peut parler des difficultés qu'on rencontre dans un moment qu'on choisit et pas dans un moment où on subit la pathologie. Et donc ça va permettre en fait de s'y confronter petit à petit et aussi de travailler sur cette acceptation en fait.
Et alors, justement, parce que, effectivement, on peut attendre le dernier moment pour consulter, mais pour les femmes qui vont être totalement réfractaires au fait d'avoir un suivi psychologique, parce que ça peut être considéré comme un signe de faiblesse, comme une charge en plus dans le quotidien, etc. Comment vous feriez ressortir les bienfaits, justement, d'un accompagnement psychologique dans le cadre de l'endométriose?
Alors c'est vrai qu'on a encore pas mal de clichés, on va dire, sur les psychologues et sur l'accompagnement psychologique, même si je pense que les générations, nos générations, moi j'ai une trentaine d'années, on est plus apte à aller vers un psychologue que les générations précédentes. Il y a une espèce de libération, on va dire, par rapport à ça. On sait qu'on va pas chez le psy uniquement parce qu'on est fou ou parce qu'on est malade. Je pense que sur ma patientèle, j'ai peut-être la moitié des patients qui viennent consulter qui ont vraiment une pathologie très présente, et j'ai 50% qui viennent parce qu'ils rencontrent des difficultés, mais qui sont pas de l'ordre de la pathologie pure. En fait, on n'hésite pas vraiment à aller chez le médecin quand on a mal quelque part. Pourquoi est-ce qu'on hésiterait à aller voir un psychologue quand on a beaucoup d'émotions ou qu'on a une situation qui est pesante au niveau mental. En fait, l'accompagnement psychologique, c'est vraiment une idée de soutien et d'aider la personne à se sortir, elle, de la situation. Et il y a un côté où en fait, la personne, c'est elle qui va sortir de la situation, c'est elle qui va mettre les choses en place. Tout ce qui est évoqué en situation, ça va amener à des réflexions qui vont permettre à la personne en autonomie de sortir de la situation. Il n'y a pas quelque chose de l'ordre de « je suis faible et je peux plus, donc je dois aller voir le psychologue ». En fait, c'est un travail de collaboration. Nous, on va pas trouver, on n'a pas de solution miracle. On va aider la personne à trouver des solutions, comme un médecin va aider à trouver un diagnostic et un traitement derrière, qui accompagne.
Et à la manière dont vous le présentez, ça semble presque un acte courageux, et je vous rejoins parce que je pense que c'est courageux d'aller se confronter à ses peurs et aux émotions que peuvent provoquer notamment une maladie chronique au quotidien.
Je pense sincèrement que c'est un acte hyper courageux de venir en consultation. Parce qu'en fait, c'est se confronter à la situation, et puis vous êtes dans un temps d'échange où en fait on parle que de vous. On parle, il n'y a pas de réciprocité dans les échanges. Et du coup, c'est un espace où on se confronte réellement à ce qu'on vit, aux difficultés qu'on peut vivre. Et à mon sens, c'est plus courageux de prendre rendez-vous, se rendre au rendez-vous, d'évoquer la situation, que se dire tête baissée, non, j'ai pas besoin et je vais m'en sortir. Je pense que c'est plus courageux de venir se confronter à ça. Et peut-être que derrière, la personne s'en sortira avec juste une séance et se sera confrontée à ça et mettra en place des choses. Mais c'est une étape qui est courageuse, qui est pas évidente, mais qui est importante.
Merci parce que je trouve que c'est un message très important à faire passer. Alors, autre sujet un petit peu délicat dans notre cas de figure, l'endométriose évidemment est une pathologie exclusivement féminine, ou en tout cas à 99% des cas. Et donc, on peut penser qu'il peut être compliqué pour les femmes de se confier à un homme sur des sujets qui sont très intimes, puisque la pathologie est profondément liée à l'intimité féminine. Comment vous appréhendez ça lors des consultations? Est-ce que vous pensez que le fait d'être un homme peut être un frein?
Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante. En fait, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure dans comment est-ce que j'accompagne des patients qui souffrent d'endométriose. Déjà, demander la définition de la pathologie, en fait, ça va déjà donner des indices sur est-ce que le sujet est librement abordé ou non. Et s'il y a une gêne derrière, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser autour de ça. Moi, très clairement, pendant les séances, je pose la question, en fait. Je pense que c'est important d'être transparent et que si à un moment donné on aborde des problématiques qui sont de l'ordre de l'intime au niveau sexuel, parce que cette pathologie peut aussi avoir des impacts au niveau sexuel, et ben poser la question directement. Est-ce que vous pensez que le fait que je sois un homme puisse être un frein dans l'accompagnement pour aborder certaines choses? Et en fonction des réponses, et ben soit on peut travailler, si c'est un frein, et ben quels sont les freins et est-ce que vous pensez qu'on peut travailler sur ces freins pour permettre de travailler ces problématiques ensuite? Ou est-ce que c'est vraiment trop compliqué pour vous? Et dans ce cas-là, eh ben, je préfère vous rediriger vers une confrère vers qui vous serez peut-être plus à l'aise pour aborder le sujet. Donc est-ce que ça peut être un frein? Oui, mais ça peut être aussi un outil de travail. Je vais faire le parallèle de la même manière que une femme qui va venir consulter qui a subi une agression sexuelle. La question d'aborder ce sujet avec un professionnel homme, en fait, elle se pose aussi. Est-ce qu'on est suffisamment à l'aise pour aborder ce sujet en étant dans une pièce seule avec un homme? Alors, c'est un espace de confiance, mais il y a quand même, c'est important de travailler ça. Et à nouveau, ça peut être un frein comme ça peut être un outil de travail. Ça peut être un espace où le fait d'échanger avec un homme peut permettre ensuite de prendre confiance pour aborder le sujet aussi et l'expliquer peut-être derrière à des proches ou à des hommes dans l'entourage, que ce soit le compagnon, le mari, le frère, la famille, le père, des amis au niveau du travail. Je pense que tout ce qu'on peut voir comme un frein peut être aussi à un moment donné peut-être perçu comme un outil de travail.
Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le changement de perception, le fait que malgré le fait que l'endométriose soit une pathologie féminine, l'entourage masculin à plein d'égards peut être impliqué dans le quotidien des femmes concernées. Et donc, je pense que ça dépend de chaque patiente, mais que oui, ça peut devenir un outil de travail de finalement avoir un échange avec un psychologue homme en l'occurrence. Donc, merci pour ces éléments de réponse qui rassureront peut-être certaines. Alors, évidemment, dans le respect de la confidentialité de vos patientes, mais est-ce qu'il y a des facteurs communs des patientes qui consultent pour de l'endométriose ou en tout cas qui vont vous parler dans le cadre de vos séances de leur pathologie?
Souvent, ce qui ressort, il y a beaucoup la question du regard des autres, avec l'impact, on va dire, le regard des autres, l'impact au quotidien et les douleurs. C'est vraiment les trois points, je dirais, qui ressortent le plus. L'impact au quotidien, alors ça dépend évidemment de la gravité, on va dire, de la pathologie, et donc ça fluctue en fonction des patientes. Mais il peut y avoir aussi dans cet impact une forme de méfiance, en fait, ou d'appréhension des moments où la douleur pourrait arriver, où les crises pourraient arriver. Ça va avec, du coup, ça rejoint cette question de la douleur qui est assez présente. Mais j'ai l'impression que c'est le regard des autres, en fait, qui est le plus pesant. Parce que c'est une pathologie qui vient toucher l'intime et qui est invisible, et que, comme beaucoup de. J'ai envie de dire, par exemple, je parlais de la dépression, en fait, c'est plus compliqué de parler de sa dépression que de parler de sa jambe cassée. Parce que la jambe cassée, à un moment donné, c'est physique, ça se voit, il y a un plâtre, on ne peut pas marcher. Alors que pourtant, la dépression, ça ne se voit pas, mais ça a un impact tellement important sur le quotidien. Et du coup, c'est moins bien accepté. Alors, c'est moins bien accepté par le patient, mais c'est aussi moins bien accepté par l'entourage. Et cette question du regard des autres derrière peut amener à avoir du mal à accepter cette pathologie. En fait, c'est souvent. Tout à l'heure, je vous parlais de l'acceptation de la pathologie. Le fait d'avoir un regard des autres parfois qui peut être un peu dévalorisant sur l'incompréhension par rapport à la douleur ou encore des croyances très ancrées de c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Il y a encore ces croyances qui peuvent rester malheureusement. Et du coup l'impression de déranger les autres avec sa pathologie. Si on a une crise de douleur pendant une soirée et qu'on a besoin de s'isoler, mais en fait c'est des situations qui sont souvent compliqué à vivre parce qu'on en fait on prend de l'attention, on prend de la place à cause de cette pathologie alors qu'on n'a pas forcément envie d'avoir cette place-là. Et donc le regard des autres sur la pathologie peut être souvent une problématique rencontrée, on va dire, par les patientes. Et du coup, ces questions-là, le regard des autres, l'impact au quotidien et les douleurs, en fait, c'est souvent des situations qui amènent du stress et de l'anxiété par rapport aux différentes situations qu'on peut rencontrer. Est-ce que si je vais à tel événement, je sais pas, à un concert, alors que bah, je sais que la période de mes règles arrive bientôt, est-ce que ça va bien se passer et qu'est-ce qui se passe si j'ai une crise? Et en fait, tout ça amène à des anticipations anxieuses qui sont assez compliquées. Et donc on va faire le lien avec ce qu'on appelle les stratégies de coping. Les stratégies de coping, c'est les types de réactions qu'on a en situation de stress. Alors on en a trois, on en a deux qui sont très développées et une un petit peu moins. En fait, on a la confrontation ou le combat, on va dire, l'évitement et la fuite. Et puis on a l'inhibition. L'inhibition, on le retrouve un petit peu moins, on va dire qu'il est un petit peu plus spécifique. Souvent, on est dans la confrontation ou dans l'évitement. L'évitement, c'est une stratégie qu'on. Oui.
Entre guillemets, alors j'allais dire trouble, mais j'ai pas envie de dire trouble, mais c'est pour ça que je dis facteur.
Alors justement, confrontation, il ne faut pas aller dans l'idée de quelque chose de violent, c'est le fait de faire face à la situation. En fait, en fonction des situations qu'on peut rencontrer, il y a des stratégies de coping qui sont plus intéressantes que d'autres. Si, je sais pas, avant l'oral de votre bac, vous êtes dans l'évitement, ça va pas très bien fonctionner. Vaut mieux être dans la confrontation à ce moment-là, même si c'est un événement qui est stressant. L'évitement, c'est plutôt une stratégie qui fonctionne à court terme. Imaginons que vous ayez peur des araignées, vous êtes dans une pièce où il y a une araignée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir de la pièce. En fait, l'araignée, c'est un élément qui amène de la peur, du stress. Donc la stratégie de coping, c'est l'évitement, vous sortez de la pièce, tout de suite après, vous êtes soulagé parce que vous n'êtes plus face à la situation. Sauf que si vous avez laissé votre sac dans la pièce, bah, à un moment donné, il va falloir rentrer de nouveau dans la pièce et la confrontation à ce moment-là est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est un point qui est intéressant à étudier, c'est s'il y a des stratégies d'évitement qui sont mises en place autour de la pathologie. Parce que si on évite d'aller à des soirées parce qu'on a peur d'avoir mal pendant la soirée, bah en fait, on fait porter à la pathologie une privation supplémentaire. Donc en fait, c'est plus difficile d'accepter la pathologie parce qu'elle nous prive d'un moment avec les autres. Et donc c'est une stratégie qui à court terme va vous soulager parce que si on ne va pas à la soirée, ben, on est sûr de ne pas avoir de crise à ce moment-là, donc de ne pas avoir de questions ou de ne pas être confronté au regard des autres. Mais en fait à moyen et long terme, ce n'est pas une stratégie qui va fonctionner. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi à étudier, c'est s'il y a des stratégies d'évitement liées à la pathologie, et dans ce cas-là, étudier si elles sont fonctionnelles ou non. Alors parfois elles seront intéressantes, parfois elles seront dysfonctionnelles. En fait, on peut travailler pour ça avec des grilles d'observation. C'est-à-dire les moments où il y a des douleurs, où il y a des crises, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Dans quel contexte est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Quelles sont les sensations physiques que j'ai? Quel est le discours interne que j'ai aussi? Parce que ça a son importance. Le discours interne, c'est la petite voix qu'on a dans notre tête. On se parle tous dans notre tête. En fonction de la formulation qu'on peut avoir, en fait, ça peut avoir des impacts plus ou moins importants sur le stress et sur l'acceptation de la situation.
Ok, oui, ce que j'allais dire, il y a eu un décalage, c'est ça, du coup, ça participe à travailler à la sensation d'avoir un peu toujours cette épée de Damoclès qui empêche de faire les choses et qui fait que même si parfois on pourrait, on s'en empêche, on en est incapable parce qu'il y a la prévention qui est là, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là qu'en travaillant aussi sur ces points-là, on peut aller travailler sur des outils qui permettent de réguler, par exemple, le stress qu'il peut y avoir, l'anxiété qu'il peut avoir, ou travailler sur la gestion de la douleur. Le fait de travailler sur ces grilles d'observation, par exemple, ce que je vous expliquais juste avant, en fait, ça permet de sortir de la situation. Comme on est en train d'observer ce qui se passe, on n'est plus en train de subir ce qui se passe. Et ça permet aussi de donner des clés ensuite sur quels sont des outils qui peuvent être appropriés pour travailler sur ce stress, sur les douleurs, et éventuellement mettre en place derrière des outils. Alors il y a plein d'outils qui peuvent être intéressants sur le stress et la douleur, tout ce qui est méditation, relaxation, travail en hypnose, etc. En fait, ça va permettre d'aller aussi sur d'autres approches qui peuvent permettre de vivre avec la pathologie sans l'appréhender et de se sentir en fait apte à réagir si elle est présente. Et donc, ben voilà, s'il y a des douleurs, ok, je sais que je peux mettre ça en place, je sais que c'est telle étape, ça dure un certain temps. Et tant que vous allez lutter contre cette douleur, en fait, comme c'est une information, on ne peut pas vraiment lutter contre une information. Elle est présente, donc on doit faire avec. Par contre, on peut mettre en place des choses pour faire en sorte que l'information prenne moins de place. Et donc, c'est là où il y a des outils qui peuvent être intéressants, comme ce que je vous disais, la méditation, l'hypnose, etc.
Ok, alors très intéressant. Et justement, en introduction, on disait que vous étiez psychologue et hypnothérapeute. Alors, ça consiste en quoi être hypnothérapeute? Et est-ce que ça peut être un outil justement dans le cadre de vos suivis avec les patientes atteintes d'endométriose?
Ouais, alors l'hypnose, en fait, l'idée de l'hypnose, c'est de travailler des problématiques en étant dans un état de conscience modifié. Un état de conscience modifié, là, dans l'échange qu'on a par exemple ensemble, on est en état de veille. Quand on s'endort, on est en état de sommeil. Bah, les états de conscience modifiés, c'est ce qu'on a entre les deux. Et ces états de conscience modifiés, en fait, ils permettent de travailler certaines problématiques différemment, avec des mécanismes qui sont moins présents. Ça permet à l'inverse d'ancrer certains mécanismes qui peuvent être intéressants. Donc dans la pratique de l'hypnose, dans le cadre de l'endométriose, il peut y avoir un travail en hypnose qui peut être intéressant à faire sur la gestion des moments de douleur, sur le fait de travailler sur des techniques qui permettent de diminuer ces sensations de douleur ou de ne pas être focalisé dessus. Ça peut être un travail en respiration, un travail en auto-hypnose, donc être capable soi-même de se mettre en état hypnotique. Alors ça peut paraître lointain, on va dire, comme technique, mais si vous conduisez et que à un moment donné, vous êtes dans vos pensées, vous vous rendez compte que vous avez fait toute une partie du chemin sans vous rendre compte, sans être conscient du chemin, en fait vous étiez en auto-hypnose. C'est déjà un état hypnotique, on a naturellement tendance à se mettre en état hypnotique. Et là, on va le chercher consciemment avec des techniques et des outils pour aller travailler sur ces problématiques-là. Notamment stress, émotion et douleur.
Bien sûr, bien sûr. Et ouais, ce qui est un peu le cœur névralgique dans les problématiques de pathologie chronique et notamment dans le cadre de l'endométriose. Et alors, je reviens sur une question un peu plus générale, mais qui a son importance. Quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France?
Alors, moi j'ai l'impression que c'est une prise en charge qui se développe de plus en plus, qui a une ouverture au sujet qui grandit. Je pense notamment au podcast que vous avez fait avec un médecin qui expliquait qu'il en parlait de plus en plus à ses étudiants aussi pour sensibiliser. Donc ça c'est sur le corps médical, on va dire. Je pense que la communication sur les réseaux sociaux aussi, elle est importante et elle permet aussi de mieux comprendre la pathologie, de sensibiliser aussi. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein, comme dans tout. une sensibilisation, je dirais, chez les jeunes femmes, mais pas uniquement. Je pense que c'est important aussi que les hommes soient sensibilisés à cette pathologie et comprennent ce que c'est. C'est pas parce que c'est une pathologie qui est exclusivement féminine que, en fait, en tant qu'homme, on n'est pas impacté entre guillemets, parce qu'en fait, si votre compagne souffre d'endométriose, à un moment donné, vous allez être confronté à ça, et c'est important de savoir ce que c'est, de comprendre ce qui se
Bien sûr.
passe. Et du coup, si cette sensibilisation, elle se fait dès assez jeune, en fait, peut-être que ça va permettre aussi une prévention entre guillemets de si un jeune homme voit sa sœur qui a des douleurs de règles, bah, peut-être qu'en étant sensibilisé, il va pouvoir aborder le sujet ou questionner. Et donc permettre aussi un diagnostic peut-être plus tôt, et donc une prise en charge plus tôt, et éviter qu'il y ait des aggravations sur la pathologie. Donc il y a cette sensibilisation, je pense, qui est importante chez les jeunes, pas uniquement chez les jeunes, mais je pense que plus on va sensibiliser tôt, plus en fait derrière ça va avoir un impact. Et je pense dans les établissements scolaires, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir des sensibilisations. Alors peut-être que ça se met en place, je ne suis pas au fait, mais en tout cas, il y a encore des progrès à faire forcément dans cette prise en charge.
Bien sûr, et puis ça favoriserait ce que vous disiez très justement tout à l'heure, la peur au regard de l'autre par rapport à la pathologie qui est encore très fort. Et en fait, plus on en parle, plus on lève le tabou, et notamment auprès de l'entourage, qu'il soit féminin ou masculin, mais notamment auprès de l'entourage masculin, moins on se sent isolé et moins on a peur de la maladie et de l'image qu'on peut renvoyer du fait d'avoir cette pathologie. Et pour terminer sur une note positive, quel message ou conseil souhaiteriez-vous transmettre aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui nous écouteront?
Alors le message ou le conseil que je peux donner, en fait, c'est surtout de s'écouter et de passer le cap de consulter à partir du moment où on se pose la question. Je pense qu'à partir du moment où on se dit peut-être qu'il faudrait que je consulte ou peut-être que ça me ferait du bien de consulter, en fait, c'est que vous êtes prêt à le faire. C'est que la question, à partir du moment où ça a germé, écoutez-vous et passez le cap. En fait, il faut vous dire que un suivi psychologique, alors évidemment, il y a différentes approches dans la psychologie, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous avez différentes. Vous avez peut-être de la psychanalyse qui est peut-être du suivi qui est un petit peu plus à long terme. Vous avez des prises en charge TCC, thérapie cognitive ou comportementale, qui sont plus focalisées sur la situation actuelle et les schémas actuels qui se mettent en place. En fonction des suivis que vous aurez des suivis plus ou moins longs. Mais aller consulter une fois, ça n'implique pas d'avoir un suivi sur 10 ans derrière. Ça, c'est important de le savoir. Ça peut être parfois le fait de juste consulter une fois, ça permet de vider son sac et d'aller mieux et de sortir en étant plus à l'aise, plus à l'écoute de soi et de comprendre certains points. Il y a un deuxième point qui est important aussi, pour enlever un petit peu de pression sur le premier rendez-vous, c'est pas toujours le premier psychologue qu'on rencontre avec lequel on travaille. Il y a tellement de paramètres différents qui rentrent en compte dans l'accompagnement. Vous pouvez aller voir une psychologue ou un psychologue. Quelqu'un de jeune, quelqu'un d'âgé, en fonction des spécialités qu'il peut avoir. Et il y a beaucoup cette question du feeling, le lien de confiance, il est important. Vous avez des psychologues qui vont pas trop parler et qui vont plutôt laisser le patient amener les choses, et vous avez des psychologues qui vont plutôt poser des questions. En fait, chacun va avoir une approche différente, et donc le premier psychologue que vous rencontrez définit pas toute la profession, ça c'est important de le savoir. Et c'est pas toujours celui avec lequel on va travailler directement. Donc, déjà, on enlève un petit peu de pression sur le premier rendez-vous avec un psychologue ou une psychologue. Et puis, le point qui est important, je pense que c'est de pas, ce que je disais tout à l'heure, de pas attendre d'être au plus mal pour prendre rendez-vous. J'ai envie de dire, c'est plus facile de réparer un mur quand il y a des fissures que d'attendre qu'il soit complètement cassé pour le reconstruire. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. On attend souvent le dernier moment pour aller consulter, le moment où on est au plus mal. Et en fait, du coup, dans ces moments-là, il faut déjà évacuer, on va dire, la charge émotionnelle avant de pouvoir aller travailler certains mécanismes ou certains schémas qui ont pu s'installer et qui peuvent être ancrés. Si vous faites le travail un petit peu en amont sans qu'il y ait une charge émotionnelle très grande, en fait, ça va permettre aussi d'avoir une vision parfois plus globale de la situation. Le rôle du psychologue, c'est aussi de vous permettre de sortir un petit peu d'un prisme de vision, on va dire. Je donne souvent cette image de. Vous voyez, dans les stades de foot ou de rugby, il y a une caméra au-dessus, on appelle ça la caméra araignée, en fait, qui permet d'avoir une vision globale du terrain. En fait, moi, je vois un petit peu le rôle du psychologue comme ça. C'est-à-dire que le patient, c'est celui qui est sur le terrain et qui est forcément un champ de vision un petit peu réduit. Et ben nous, notre rôle, ça va être aussi de sortir un petit peu de ce prisme et de voir un petit peu les freins qu'on peut se mettre, les barrières qu'on peut se mettre et comment sortir de ça. Donc si on fait ça dans un moment où il y a une grosse charge émotionnelle, d'abord il faut accueillir la charge émotionnelle avant de pouvoir aller travailler certaines choses. Alors que si on prend le rendez-vous quand finalement on commence à se poser des questions mais qu'il n'y a pas une charge émotionnelle trop importante, bah peut-être que ça permet d'anticiper un petit peu ça et d'être presque en prévention en fait de certaines situations.
Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci plus généralement pour le témoignage bienveillant, ouvert et pour le partage d'expertise. Je pense que ce sera précieux pour ceux qui nous écouteront. Merci Thibault.
Bah merci à vous pour ce temps-là et puis je vous souhaite une bonne continuation pour ces podcasts qui sont hyper intéressants et hyper riches aussi pour tout le monde, je pense, dans tout ça, dans la prise en charge.
C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.